Il est 22h, vous êtes sur Europe 1. Et le journal de la nuit, c'est tout de suite.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir. La spectaculaire décrue du chômage. Les chiffres publiés aujourd'hui sont les derniers du quinquennat. Ils profitent le plus aux jeunes. Ils ne desserviront pas Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui adresse un geste fort aux pieds noirs, la reconnaissance de deux massacres commis en 1962 dans l'Algérie française. Orpea dans la tourmente. Après les révélations choc sur l'envers de ses maisons de retraite, le directeur général du groupe convoqué par le gouvernement qui n'exclut pas des sanctions. Dans ce journal, nous irons en Ukraine avec notre envoyé spécial Marion Gauthier. Les Ukrainiens sous la menace d'une attaque russe imminente, si l'on en croit Washington. Les Européens tentent de leur côté de maintenir un canal de dialogue avec Moscou. La météo, ce sera du verglas au nord, du soleil au sud. L'invité éco, nous serons avec un assureur pour aborder la réforme en cours de l'assurance emprunteur. Et puis juste avant la libre antenne, les unes des quotidiens de demain matin.
Europe 1.
C'est donc une bonne nouvelle pour commencer cette année. Le nombre de chômeurs a chuté de près d'un demi-million en 2021. Il retrouve ainsi son niveau le plus bas depuis près de 10 ans, Emmanuel Duteil.
Oui, hein, sur le papier, on peut vraiment parler de baisse spectaculaire. Le nombre de demandeurs d'emploi est au plus bas depuis le troisième trimestre 2012, c'est-à-dire depuis quasiment 10 ans. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, estime que 2021 a été une année exceptionnelle pour l'emploi. Factuellement, elle a raison, mais bon, il y a eu aussi un effet correction après le boom des premières semaines du confinement niveau chômage. Au-delà de ça, même si les chiffres de décembre sont un petit peu moins encourageants, le marché de l'emploi est extrêmement dynamique. Fin 2021, les offres d'emploi déposées chez Pôle emploi ont progressé de 28% par rapport à fin 2019. Ce sont les jeunes qui en profitent le plus. Le chômage des moins de 25 ans recule de près de 20% sur un an. Sur le front du chômage de longue durée, point noir hein, français, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis un an ou plus diminue aussi, mais plus modestement, un petit peu plus de 6% de baisse sur un an. En tout cas, ces données arrivent là encore, bien évidemment, au meilleur moment pour le gouvernement qui va pouvoir, en pleine présidentielle, vanter son bilan en matière d'emploi.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Alors, l'aspect le plus encourageant dans ces chiffres, c'est sans doute la baisse très forte du chômage chez les moins de 25 ans. Et pour Christopher Dembick, chef économiste chez Saxo Bank, l'explication est limpide.
La très forte baisse du taux de chômage des jeunes s'explique essentiellement par la multiplication des contrats d'apprentissage. On a eu énormément sur l'année 2021. Selon les derniers chiffres qui recouvrent quasiment l'intégralité de l'année 2021, on a eu quand même 650 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés. C'est extrêmement important. Et pour donner un ordre de comparaison, c'est une hausse de plus de 25% par rapport à l'année 2020. Donc on a vraiment un changement de modèle et un changement d'attitude par rapport à l'apprentissage. On voit que c'est un modèle qui s'est complètement renouvelé et qui est désormais très attractif pour les jeunes et qui permet effectivement une insertion plus durable sur le marché du travail. C'est vraiment le facteur différenciant qui explique cette forte baisse du taux de chômage des jeunes au cours de l'année 2021.
Christopher Dembick, chef économiste chez Saxo Bank. Le geste mémoriel d'Emmanuel Macron aujourd'hui en direction des pieds noirs est perçu comme un geste fort. Le président recevait des associations de rapatriés d'Algérie cet après-midi à l'Élysée. Le chef de l'État reconnaît deux massacres, celui du 5 juillet 1962 à Oran, où l'inaction de l'armée française est en cause. Emmanuel Macron a aussi eu des mots très forts sur une fusillade commise la même année à Alger, Jacques Serey.
Oui, la fusillade de la rue d'Isly à Alger le 26 mars 1962. Des dizaines de partisans de l'Algérie française furent tués par des tirailleurs algériens de l'armée française. 60 ans après, le chef de l'État le reconnaît officiellement. Ce jour-là, des soldats français déployés à contre-emploi, mal commandés, ont tiré sur des Français.
La France reconnaît cette tragédie. Et je le dis aujourd'hui haut et clair. Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République. Toutes les archives françaises sur cette tragédie pourront être consultées et étudiées librement.
La vérité doit être de mise et l'histoire transmise, insiste Emmanuel Macron. Un geste envers les pieds noirs à l'approche du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, avec les accords d'Évian du 19 mars, anniversaire qui tombera à 3 semaines du premier tour de la présidentielle. Geste électoraliste ou pas, Emmanuel Macron n'ignore pas que les rapatriés d'Algérie et leurs descendants, plusieurs centaines de milliers d'électeurs, votent majoritairement à droite, voire très à droite.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Robert Ménard était dans le public à l'Élysée pour ce discours d'Emmanuel Macron. Le maire d'extrême droite de Béziers est né à Oran, en Algérie. Et il confie tout le bien qu'il pense du discours du chef de l'État.
Alors évidemment, je continue à regretter, vous savez, sur ses propos sur la colonisation, un crime contre l'humanité. Mais là, j'ai l'impression qu'on avait contrebalancé. Alors, on peut y voir un discours de circonstance. Je l'ai trouvé honnête, je l'ai trouvé sincère. Je pense qu'il a eu raison de dire tout ça. Je pense que ça vient 60 ans après. Alors, beaucoup de pieds noirs sont morts. Mais pour des gens comme moi, qui suis né en Algérie, en pensant encore une fois à mes parents qui sont morts, eux, je suis content d'avoir entendu ça aujourd'hui.
Robert Ménard au micro d'Alexis Delafontaine. Un peu plus tôt dans la journée, Marine Le Pen a présenté ce matin ses vœux à la presse. On est sûr en tout cas que les bons vœux de la candidate RN ne s'adressaient pas à Éric Zemmour. Marine Le Pen s'est employée à pilonner son adversaire le plus direct. Elle se distingue, assure-t-elle, de la brutalité qu'elle perçoit chez son concurrent Victor Chabert. Marine Le Pen a donc adopté un ton très policé.
Oui, des vœux qui tranchent avec ceux d'Éric Zemmour, perçus comme agressifs par certains journalistes il y a quelques semaines. Marine Le Pen a fait l'inverse, une véritable ode à la presse, saluant le très beau métier qu'est la recherche de la vérité. Mais la candidate en a aussi profité pour cibler Éric Zemmour sans jamais le nommer.
S'agissant de notre ligne, il n'y aura pas de ma part ni de surenchère, ni d'outrance. Il n'y aura pas une course de vitesse à la radicalité ou au buzz.
Ce discours s'inscrit dans une volonté de la candidate de prendre le contre-pied d'Éric Zemmour et de marquer sa différence face à ce qu'elle définit comme de la brutalité. Elle veut paraître rassembleuse, elle dit se sentir désormais libre. Plus qu'en 2017, cette fois elle a quitté la présidence du RN et Marine Le Pen voit dans les récents ralliements des eurodéputés Gilbert Collard et Jérôme Rivière à Reconquête moins de contestations en interne de sa ligne. Elle a d'ailleurs tenu à leur adresser un message, ceux qui sont partis, c'est pour un aller sans retour.
Victor Chabert. C'est une journée de grève très inhabituelle qu'a vécu aujourd'hui EDF. Inhabituelle par son ampleur, plus de 42% de grévistes. Inhabituelle aussi de voir des cadres du groupe, des directeurs faire grève main dans la main avec les employés. Tous protestent contre les mesures du gouvernement qui obligent EDF à vendre plus d'électricité à bas prix à ses concurrents. Mesure pour alléger la facture énergétique des Français. EDF, en tout cas, n'est pas habitué à des grèves de cette ampleur, Maud Descamps.
Oui, plus d'un salarié sur trois était en grève aujourd'hui, 37% selon la direction, 45% selon les syndicats. Un mouvement qui n'a pas entraîné de coupure de courant, mais simplement une baisse de la production la nuit dernière. Des grévistes un peu partout en France, à l'instar de Stéphane, cadre au sein de la centrale de Gravelines dans les Hauts-de-France. S'il a débrayé aujourd'hui, c'est pour défendre, dit-il, l'avenir d'EDF face à une mesure dangereuse.
Ça va jouer sur les investissements, sur les emplois, donc à tout niveau, au niveau de la maintenance, on risque de voir forcément, ça va avoir un impact. Donc c'est très, très dangereux de nous demander de vendre à perte de l'électricité parce que forcément ça va avoir des impacts.
Du côté de Bercy, on dit être attentif et aux côtés des salariés d'EDF, mais à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a comparé le choc gazier à l'origine de la hausse des prix de l'électricité au choc pétrolier de 1973. L'exécutif estime donc qu'en tant que groupe détenu à 84% par l'État, il est normal que EDF contribue à l'effort pour limiter la hausse des prix.
Maud Descamps, spécialiste des questions d'énergie d'Europe 1.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Le scandale des maisons de retraite Orpea place le leader mondial du secteur sur la sellette après les révélations choc du livre Les Fossoyeurs. Cette enquête du journaliste Victor Castanet a été publiée aujourd'hui, ce mercredi, mais la tempête n'aura pas attendu l'arrivée du livre chez votre libraire. Les faits de maltraitance rapportés dans ce livre sont particulièrement graves. Le directeur général d'Orpea sera entendu très prochainement par le gouvernement avec de possibles sanctions à la clé. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, l'a clairement laissé entendre.
Les révélations qui ont été faites dans ce livre sont absolument révoltantes. Vous avez le ventre noué en lisant des choses pareilles. Si ces faits sont avérés, ils devront évidemment être sanctionnés avec la plus grande sévérité. Le directeur général d'Orpea a été convoqué par la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Ensuite, nous avons demandé à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France leur dernier rapport de contrôle inopiné sur cet établissement, celui dont il est fait état, et les suites qui avaient été données à ce rapport. Et enfin, nous envisageons une mission d'inspection indépendante pour l'intégralité du groupe Orpea. Il est hors de question que de tels agissements puissent être tolérés dans notre pays.
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Les députés socialistes réclament la mise en place d'un droit de visite pour les parlementaires. Une fois n'est pas coutume, cette proposition du PS reçoit le soutien de Marine Le Pen. L'idée serait que les élus puissent se présenter à tout moment à l'improviste dans les maisons de retraite, sur le même modèle que ce qui se fait déjà dans les lieux de privation de liberté. Christine Pires-Beaune est députée socialiste du Puy-de-Dôme.
Nous avons ce droit pour les prisons, mais nous l'avons aussi pour les établissements psychiatriques, en fait. Donc, l'idée, c'est de l'étendre, ce droit, aux établissements sociaux et médico-sociaux, donc notamment les EHPAD. Et ça nous permettrait de jouer notre rôle, finalement, qui est aussi de contrôle. Aller à l'improviste, rentrer dans un EHPAD à l'improviste, c'est pas du tout la même chose que d'aller rendre visite au directeur en prenant rendez-vous, ce que nous faisons déjà. C'est pas la même chose que de pousser une porte à l'improviste, encore une fois, et de pouvoir aller partout, évidemment, dans cet établissement.
Et Christine Pires-Beaune, députée socialiste avec Romain Desarbres dans Europe Midi. Les Américains et les Européens veulent afficher leur unité sur l'Ukraine, toujours menacée par l'armée russe. Mais c'est sur deux fronts que les partenaires occidentaux ont joué ce mercredi leur partition. D'un côté, une réunion diplomatique à Paris, sans les Américains, avec à la même table des négociateurs russes, ukrainiens, français et allemands. Des discussions pas simple pour l'envoyé russe, convaincu toutefois qu'il faut maintenir le cessez-le-feu en Ukraine. Son de cloche également de l'Élysée qui relève un bon signal des Russes après cette table ronde, malgré des conditions là aussi considérées comme difficiles. Et puis de l'autre côté, des propos beaucoup plus alarmistes de Washington, c'est la certitude que la Russie veut attaquer et qu'elle pourrait même le faire avant mi-février. Washington qui a dit non ce soir à la Russie, l'Ukraine restera libre d'adhérer à l'OTAN quand elle le souhaite. C'est exactement tout le contraire de ce que Vladimir Poutine demande. Partons tout de suite pour l'Ukraine. Marion Gauthier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, la capitale ukrainienne. Vous êtes au contact, Marion, de la population. Est-ce qu'elle vit dans la peur d'une attaque russe ?
Pour l'instant, c'est surtout la fatigue qui domine ici, un mélange de lassitude et d'incompréhension après presque 8 ans de guerre contre la Russie et toujours pas de solution, se désespère Sergueï. Le jeune homme s'est porté volontaire pour aller combattre en 2014, il avait alors 17 ans. Il se dit toujours prêt à combattre et reprendre les armes.
Tout cela est devenu un jeu politique. Les gens le savent et attendent. Ils essaient de prendre leur distance. Moi, je ne croirai au conflit que quand il éclatera.
La tempête est d'abord sous les crânes. Beaucoup ici s'affichent sereins, s'émeuvent, se révèlent marqués par les affrontements. Alexei et Tatiana gardent un œil sur leur fils et répètent, comme pour s'en convaincre, qu'il n'y aura pas d'invasion.
Je pense que c'est juste une provocation des Russes. Il ne va rien se passer.
Ils veulent nous enfermer dans la peur. Nous, nous voulons croire que tout va bien se passer. Nous avons peur pour nos enfants, tellement d'innocents sont déjà morts.
Et même éloignée de la frontière, toute la ville porte ses blessures. Mémorial de Maïdan, la place de l'indépendance où des dizaines de personnes sont tombées lors des manifestations pro-européennes. Mur, hommage à ceux qui sont morts au combat depuis. Autant de rappels sous l'apparent calme enneigé des rues de la violence à laquelle les habitants ont été confrontés.
Marion Gauthier à Kiev. Merci Marion, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 en Ukraine. La liste des nommés pour les Césars a été dévoilée ce mercredi. Canal Plus et Europe 1 vous donnent rendez-vous le 25 février. Nous sommes partenaires de cette cérémonie. Le film de Xavier Giannoli est largement au-dessus de la mêlée. 15 nominations pour Les Illusions Perdues. Marie Jiquel, il s'est déjà taillé un franc succès ce film l'automne dernier.
Le film flamboyant de Xavier Giannoli a attiré 850 000 spectateurs en pleine période de pandémie. Le réalisateur à qui l'on doit Marguerite avec Catherine Fraud réfléchissait depuis plusieurs années à cette adaptation du roman de Balzac qui se déroule au 19e siècle dans les coulisses du milieu de l'édition et de la presse et qui n'est pas très éloigné de notre réalité comme le souligne Olivier Delbosque, le producteur.
À l'heure où les plateformes volent beaucoup de spectateurs dans les salles, je pense que ce qui a plu c'est que c'est un grand spectacle. Ça renoue avec les traditions des grands films comme Amadeus, Cyrano de Bergerac. Ces grands films qui ont fait le patrimoine français. Et c'est surtout la modernité du propos de Balzac. Ça fait écho à notre société, de manière fulgurante.
Carton plein donc pour Illusion perdue, suivent derrière Annette de Léos Carax avec 11 nominations, Aline de Valérie Lemercier, 10 nominations et puis Bac Nord et ses 7 nominations. Mais rien n'est joué, nomination ne veut pas dire récompense. Par exemple, le réalisateur François Ozon, 16 nominations à titre personnel, n'a jamais reçu le précieux trophée compressé.
Marie Jiquel, la cérémonie des Césars 2022, ce sera donc à suivre en direct et en intégralité le 25 février prochain sur Europe 1. Les Bleus n'avaient pas le droit à l'erreur ce soir contre le Danemark à l'Euro 2022 de handball. L'équipe de France l'emporte de justesse, 30-29 face au Danemark, de justesse, mais ça suffit pour qualifier les Bleus pour les demi-finales. Ce match de demi-finale, ils le joueront contre la Suède vendredi à 18h. Saint-Etienne reverdit un peu son blason en Ligue 1. Les Stéphanois se sont imposés 1-0 ce soir face à Angers. Match en retard de la 20e journée de Ligue 1. Saint-Etienne toujours dernier au classement, mais qui remonte à 2 points maintenant derrière Lorient. Ils porteront les couleurs de la France au JO de Pékin. Tessa Worley et Kevin Roland seront les 2 porte-drapeaux de l'équipe de France pour ces Jeux Olympiques d'hiver qui démarrent donc à partir du 4 février. Le temps pour ce jeudi, Marlène Duret, malheureusement ce sera encore gris et humide si l'on vit dans la moitié nord.
Oui, c'est ça Alexandre. Depuis plusieurs semaines, nous sommes protégés par un dôme de haute pression, mais notre anticyclone va légèrement faiblir et laisser passer une perturbation par le nord demain. Alors elle est très peu active, quelques pluies fines simplement attendues d'abord dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis elles vont gagner en cours de journée tous les Hauts-de-France, la Normandie, le nord de l'Île-de-France et de la Champagne-Ardenne. Et ça va même déborder un petit peu sur la Lorraine, à proximité de la frontière luxembourgeoise. Météo France prévoit même des petites bruines verglaçantes du côté des Ardennes, le matin comme l'après-midi. Et puis dans la soirée, ces pluies elles vont continuer à s'enfoncer un petit peu plus. Elles vont finir par concerner la moitié nord du pays. Et le risque de bruines verglaçantes se décalera vers les Vosges et la Haute-Saône. Donc prudence sur la route. Il faudra aller en montagne et vers le sud du pays pour trouver du soleil. Au sud d'une ligne reliant La Rochelle, Strasbourg, en passant par Châteauroux et Nevers, à la louche, hein, on va dire au sud de cette zone. Quelques plaques de grisailles peuvent résister le long de la Garonne ou dans le Mâconnais, ça c'est un grand classique. Et puis comme les jours précédents, les températures de l'après-midi seront à nouveau contrastées entre les villes sous le soleil et celles restées sous la grisaille. Demain, Météo France prévoit 2 degrés à Dijon, 3 à Bourges, Lyon et Commercy en Lorraine, 4 degrés à
Les Madeleines de Commercy.
Exactement, gourmand. 4 à Blois, Agen et Montauban, il fera 5 degrés à La Rochelle, 6 attendus à Reims et Chamonix, 7 à Paris, 8 à Montélimar, 9 degrés attendus à Roubaix et Cahors, 10 à Caen, nous aurons 11 à Pau, 12 à Marseille, Cannes affichera 14, 15 à Ajaccio et les températures vont remonter ce week-end.
Merci Marlène Duret, on vous retrouve à minuit pour un dernier point météo. Dans un instant, c'est Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamot. A tout de suite.
Europe 1, Alexandre Lemaire.
22h19 sur Europe 1, Top à Wall Street, c'est avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui hésite ce soir après les avertissements de la Réserve fédérale en vue d'un resserrement monétaire qui se précise aux États-Unis.
Oui, et la Fed a annoncé la couleur à l'issue de son conseil monétaire. La Banque centrale américaine se dit prête à relever ses taux directeurs, sans doute à partir du mois de mars. Un changement de ton qui se confirme. De quoi rendre prudents les investisseurs avec un Dow Jones qui a perdu toute son avance du début de séance, puisque le Dow Jones recule finalement de 0,38%, 34 168 points. Le Nasdaq est stable, 13 542 points, avec des valeurs de technologie partagées, divisées en deux, à la baisse. Apple en légère baisse sous les $160, Amazon moins 0,8%, Netflix moins 1,8%. Ça monte quand même sur Microsoft après de bons trimestriels, plus 2,8%. Google plus 1,8%. Tesla, on attend les résultats ce soir, Tesla plus 2% à $937. Il y a quand même une très forte baisse du côté de Boeing qui perd pratiquement 5%. $194,27 après une perte nette trimestrielle très lourde de plus de $4 milliards. Le grand vainqueur, une nouvelle fois, c'est le pétrole ce soir qui grimpe encore d'1,5%. On est sur les $90 le baril de Brent au plus haut depuis 2014, depuis plus de 7 ans. L'euro est beaucoup plus calme, il revient sous les 1,13, 1,1245 face au dollar.
La Bourse de Paris a poursuivi sa remontée, elle est en hausse de plus de 2% ce soir.
Oui, très nette, hein, une hausse de 2,11%, 6 981 points après son rebond de 0,7% hier. Et comme hier, ce sont les valeurs pétrolières donc qui emmènent le mouvement de hausse dans le sillage du baril de Brut. On a CGG plus 9%, Technip plus 7%, Morel et Prom plus 4,5%, Total plus 4% à 51 euros, Vallourec plus 3% à 8,45 euros. Il y a Automobile aussi qui se distingue. Renault grimpe encore de 6%, 35,38 euros avant les annonces de nouveautés électriques. Et puis Stellantis plus 5%, 17,40 euros. Là, c'est le broker Odo qui vise désormais plus haut sur Stellantis. Avec un cours cible de 27 euros, le titre gagne 5% ce soir à 17,40 euros.
Exception du jour, Didier, c'est le secteur des maisons de retraite, hein, encore sanctionné, secoué par les révélations de ce livre enquête, Les Fossoyeurs. Hein.
Encore et toujours Orpea qui continue de plonger avec une chute de plus de 20% aujourd'hui, 43,66 euros sur fond de révélation explosive. Oui. Orpea a annoncé ce soir que deux cabinets allait mener une évaluation indépendante sur la situation du groupe après les révélations donc de ce fameux livre Les Fossoyeurs. Les autres places financières sont en hausse, assez net. Hein, le DAX plus 2,2% à Francfort, Bruxelles plus 1,2%, Madrid plus 1,6%, Milan plus 2,2% et donc le CAC 40 qui remonte de 2,11%, 6 981 points.
Merci Didier Hamo. La révolution de l'assurance emprunteur, elle pourrait bien avoir lieu. L'invité écho ce soir sur Europe 1, Éric Momy, président du groupe Appris l'assurance, il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Éric Momy.
Bonsoir Emmanuel Duteil.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le président du groupe April. Alors c'est quoi April ? Eh bien c'est le leader du courtage en France pour tout ce qui peut être notamment assurance avec un réseau de 15 000 courtiers partenaires. Bah ça tombe bien que vous faites ça et c'est pour ça que nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir parce que j'avais envie de parler de l'assurance emprunteur. C'est l'assurance que l'on a en plus quand on achète par exemple un bien immobilier. On peut résilier, on peut changer aujourd'hui de banque ou de partenaire pour avoir cette assurance, mais pour ça, il ne faut pas rater la fameuse date anniversaire. Bien évidemment, on la rate tous et on ne pense jamais à renégocier cette assurance emprunteur, alors que c'est un énorme levier de pouvoir d'achat parce que parfois, il y a plusieurs milliers d'euros à récupérer. L'Assemblée nationale avait laissé un espoir en pensant que ça pourrait peut-être intervenir, mais le Sénat a dit non, 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 pas question, on reste à la résiliation possible uniquement à la date anniversaire du contrat. Déjà, pour qu'on comprenne bien, pourquoi le Sénat dit non ? C'est parce que les banques ont réussi leur lobbying ? Elles ne veulent pas perdre cet énorme marché ?
Alors, moi, je ne fais pas de procès d'intention. Je vais dire que la position du Sénat, elle est extrêmement décevante. Et pour faire écho à ce que vous venez de dire, je ne comprends pas pourquoi les sénateurs ont persisté dans leur erreur en soutenant l'intérêt des banquiers contre celui des consommateurs et en détricotant cette proposition de loi qui avait été votée à l'Assemblée nationale. Mmh. Alors leur intérêt, moi je le perçois très bien, on parle d'un marché de 7 milliards d'euros de primes par an, ils en ont 90%, ça veut dire que grosso modo vous imaginez là-dessus en plus il y a des marges extrêmement importantes comme ça a été révélé par UFC Que Choisir. Donc les banquiers, eux, ils ont un intérêt à défendre leur position. Ce qui est extrêmement surprenant et regrettable, c'est que le Sénat défende la position des banquiers contre les consommateurs. Vous aviez fait référence tout à l'heure. Hein.
Surtout que ça allait plutôt dans le sens de l'histoire, cette proposition, puisque à l'époque, quand Benoît Hamon était ministre, il a fait passer une loi qui porte son nom, qui a ouvert notamment l'assurance habitation, l'assurance automobile. Maintenant, une fois la première année de contrat passée, on peut changer d'assureur quand on le souhaite.
Vous avez absolument raison. Il y a eu plusieurs lois et sur l'emprunteur, il n'y en a pas eu qu'une. Il n'y a pas eu que la loi Hamon, il y en a eu plein d'autres qui ont essayé en fait de desserrer le carcan mis en place par les banquiers. Et la proposition de loi qui a été soutenue, je le rappelle quand même, à l'Assemblée nationale par tous les groupes parlementaires et par le gouvernement, elle a le mérite de faire quelque chose d'extrêmement simple qui fonctionne en santé, en habitation, en automobile. Vous venez d'y faire référence. C'est la possibilité de résilier à tout moment pour l'emprunteur et de retrouver sa liberté de choix.
Alors une liberté de choix qui est, pour ceux qui auraient envie de le faire, hein, qui est donc possible à la date anniversaire, qui est malgré tout compliquée parce que quand on a signé une assurance emprunteur, notamment avec sa banque, c'est souvent le cas quand on fait un prêt immobilier, pour en partir, il faut trouver une assurance qui répond aux mêmes critères. Et là encore, les banques ne font pas toujours beaucoup d'efforts parce que c'est tellement écrit dans un langage qu'on ne comprend pas que ce n'est pas simple de trouver le même assureur à côté. En même temps, c'est là où vous faites votre job. Vous avez April derrière comme courtier. Vous nous aidez à trouver le bon client.
Alors, c'est pas simple parce qu'on l'a compris. En gros, les banquiers, ils vont gripper tout le système en ne répondant pas, enfin en créant tout un tas de situations pour ne pas permettre à l'emprunteur de sortir. Et je le rappelle, même si le Sénat, à notre grand regret, n'a pas voté la proposition de loi, Elle va repartir en commission mixte paritaire. Ça va se passer le 3 février. Le gouvernement a clairement marqué son intention. Il a fait des amendements sur la proposition qui est passée devant le Sénat.
De ce que j'entends, vous pensez que début février, il y a encore un espoir pour que,
je pense que pour vos auditeurs, il y a un grand espoir. C'est que, effectivement, lors de la commission mixte paritaire, le gouvernement qui veut vraiment que ce texte soit adopté et qu'il a montré au Sénat va tout faire pour que ce soit le cas. Et puis, on va quand même le rappeler, on est dans un régime dans lequel, à la fin de la journée, ceux qui ont le dernier mot, ce sont les députés. Et à l'Assemblée nationale, il y a une majorité, et notamment la majorité présidentielle, qui est extrêmement déterminée à faire passer ce texte. Et j'espère qu'elle recevra le soutien, comme ça a été le cas en première lecture, des députés de l'opposition, ceux-là même qui, majoritaires au Sénat, bloquent le texte.
Et vous, bien évidemment, vous le soutenez, hein, puisque vous êtes l'un des leaders du courtage, notamment d'assurance en France, du côté du groupe April. C'est un énorme marché potentiel derrière, puisque c'est des milliers d'euros, on ne s'en rend pas souvent compte, hein, mais c'est des milliers d'euros que les Français, en tout cas ceux qui ont un emprunt immobilier, pourraient récupérer s'ils négociaient de temps en temps leur assurance.
5 000 à 15 000 euros par personne sur la durée d'un emprunt, Emmanuel, donc je pense que ça parle à tout le monde, c'est énormément d'argent. Et puis moi, je vais le dire, April et l'APCAD, l'association qu'on a créée avec laquelle on essaie de faire passer ce texte, elle est dans le camp des consommateurs.
Là, vous êtes un peu lobbyiste de votre propre cause, ce qui peut s'entendre. Pour vous, ce sera un énorme marché en plus.
Le marché, il est ouvert à tout le monde. Et je en profite pour dire à mes amis banquiers que ce n'est pas parce que la résiliation à tout moment va passer qu'ils vont disparaître de ce marché. Ils ont plein de choses à proposer. La seule chose, c'est que les consommateurs vont retrouver leur liberté de choix. Et au moment où on est en train de parler du pouvoir d'achat, dans une campagne présidentielle, on parle de 550 millions d'euros par an. C'est le calcul qui a été partagé par Bruno Le Maire. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire, 550 millions d'euros qui reviennent dans la poche des Français.
Alors si on se met du côté des banques, puisqu'on peut également entendre certains de leurs arguments, les banques disent on fait des efforts historiques sur les prêts immobiliers. C'est vrai que les taux n'ont jamais été aussi bas et elles se battent pour faire venir les clients à coût de prêts toujours plus intéressants. Et donc du coup, elles laissent entendre que si elles perdaient ce marché lucratif de l'assurance emprunteur, il faudrait peut-être augmenter les taux.
Alors, deux choses. La première, moi je ne suis pas dans la position des banquiers, mais je ne suis pas certain que dans un marché dans lequel on va se sourcer à taux négatif, ce soit si difficile de gagner de l'argent sur les emprunts immobiliers. Mmh. Mais je ne suis pas un spécialiste de la distribution de crédit immobilier. Je pense que si ce n'était pas lucratif, les banquiers ne seraient plus dedans. La deuxième chose, c'est que pour les consommateurs, 550 millions d'euros par an, c'est beaucoup, vous l'avez compris. 7 milliards sur ce marché, 90% entre les mains des banquiers. Et USJ que choisir nous révèle, et c'est quand même un chiffre extrêmement important, qu'on parle de marge de 60 à 70% pour les banquiers. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment de la place pour que les consommateurs y retrouvent leur liberté de choix et que tout ça, ça se fasse dans l'intérêt de tout le monde. Et le premier intérêt, c'est celui des consommateurs.
Eh bien, merci beaucoup et on va suivre ça début février. Eric Momy, je rappelle que vous êtes le président du groupe April. Merci d'avoir été avec nous ce soir et nous, on se retrouve demain, 22h20.
Emmanuel, merci. On vous retrouve demain également avec Elisabeth Assayac de 13h à 14h pour La France bouge sur Europe 1. Demain, vous nous emmenez à l'hôtel, tiens, avec une marque qui s'en sort plutôt bien malgré cette crise sanitaire. Vous vous intéresserez à Adagio.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Les unes de la presse, demain 27 janvier déjà, oui. Le chiffre le plus encourageant de ce début d'année, il est encore demain matin à la une des Échos. Le nombre de chômeurs au plus bas depuis 10 ans. C'est un repli de 13,6% sur un an qui fait plus qu'effacer d'ailleurs les effets de la crise du Covid. Emmanuel Macron affiche sur ce plan un bilan positif. Il reste un point noir toutefois, relève les Échos, c'est le chômage de longue durée. Les chiffres du Covid, eux, sont nettement moins bons, mais Omicron relance l'espoir d'une immunité collective, veut croire le Figaro, avec environ 15 millions de Français contaminés depuis le 1er janvier, presque autant qu'en 2 ans de pandémie. Eh bien, cette évolution permet d'envisager le bout du tunnel. Libé vous propose une enquête sur le juteux business des tests. 168 millions de prélèvements l'année dernière. Une manne qui attire des intermédiaires parfois peu scrupuleux. Et puis demain jeudi est une date clé à l'agenda de tous les candidats. La course au parrainage est lancée à partir de demain donc et jusqu'au 4 mars. C'est à lire à la une de l'Opinion. 22h30. Vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne avec Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher.
Okay, vous êtes plus bronzé qu'hier, non? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous
faites... Mais pas du tout, qu'est-ce que c'est? C'est la troisième fois qu'on me dit ça aujourd'hui.
Vous faites pas du solarium quand
Est-ce
même.
Est-ce que vous me voyez sincèrement faire ce genre de choses?
Vraiment, rien.
Vous qui me connaissez un petit peu quand même.
Un petit peu.
Me voyez-vous...
En tout cas, je suis pas le seul à vous le faire remarquer.
Non, mais vous voyez, je pense que le froid me pimente un petit peu plus la peau.
Et c'est ça, quand on fait de la moto.
C'est quelque chose de très courant chez les Vikings.
Ah bon?
Oui, exactement. Donc me voilà un petit peu
vous
bronzé.
Vous voilà viking ce soir.
Car je m'adapte parfaitement à ce froid glacial.
Je vois ça.
Voilà, bah écoutez, on se fera un petit point sur la météo aussi tout à l'heure. On vous retrouve à 23h pour le flash et puis à minuit pour le journal de la rédaction. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Olivier.